Merci. Je vais essayer de bien articuler. C'est pas le... Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérets et Zérak de Tamar. Pérets eut Hetsrom. Hetsrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nakhson. Nakhson eut Salomon. Salomon eut Boaz de Rab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abija. Abija eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Ozias. Ozias eut pour fils Jotham. Jotham eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendants Jéconias et ses frères, à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shéatiel. Shéatiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abihud. Abihud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hakim. Hakim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ.
Merci. Un exercice qui n'est pas simple. Merci, Lucas. Pour rappel, la semaine dernière, nous avons vu que nous sommes en face d'un livre saint inspiré par Dieu à l'apôtre Matthieu. Il s'agit d'une biographie de Jésus, un livre donc qui est divinement inspiré, comme le premier terme l'indique dans le verset 1, livre de la généalogie de Jésus. Et on avait vu que ce mot a toujours une connotation religieuse dans le Nouveau Testament. On a vu aussi que Matthieu donne une sorte de titre à cette biographie, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, verset 1. Et que dans ce titre, nous avons le message essentiel de ce que Matthieu veut nous communiquer. Jésus est le choix de Dieu pour dominer sur le monde entier et être la source de bénédiction pour des hommes et des femmes issus de toutes les nations. Et ce matin, nous allons voir trois choses au travers de cette généalogie que Lucas vient de nous lire. D'abord, une confirmation. Ensuite, un héritage. Et enfin, une perspective divine. D'abord, une confirmation. Comme toute généalogie, un des buts de la généalogie ici que nous trouvons dans cet évangile de Matthieu, c'est de confirmer l'identité de celui au sujet duquel Matthieu est en train d'écrire. C'est de vérifier, de prouver que Jésus est bien le descendant d'Abraham, le descendant de David. Si vous voulez comparer à quelque chose de plus contemporain, aujourd'hui, pour certaines procédures, procédures administratives ou officielles, on nous demande souvent un acte de naissance ou le livret de famille. Et je vois Naomi sourire et cette circonstance pour Naomi et Lucas, n'est-ce pas, qui...
Je pense avoir une discrète.
dans la perspective du mariage, vous devez fournir un certain nombre d'informations sur vos ascendants. Dans le peuple d'Israël, dans le Moyen-Orient en général, mais dans le peuple d'Israël en particulier, on était très scrupuleux, très méticuleux pour conserver la liste de nos ancêtres. Il y avait plusieurs raisons à cela, pour la répartition des territoires, pour l'accession à certaines fonctions comme la prêtrise. Et nous pouvons voir un exemple de cela dans Esdras chapitre 2, versets 59 à 63. Esdras 2. Versets 59 à 63. Pour le contexte, nous sommes ici au retour de l'exil de Babylone et Esdras nous dresse dans ce chapitre 2 une liste de ceux qui sont rentrés, des premières générations qui sont rentrées en Israël. Et vers la fin de cette liste, nous lisons donc à partir du verset 59. Voici ceux qui revinrent de Tel Mélac, de Tel Archa, de Kérub Adan et d'Imer. Ce sont des provinces de l'Empire babylonien. Et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine. Alors, un des problèmes que ça posait, c'était notamment pour la répartition des territoires. Pour ceux qui sont lecteurs assidus de l'Ancien Testament, vous vous souvenez que tous les 7 ans, l'année du jubilé, il y avait, non, c'est tous les 50 ans plutôt, l'année du jubilé, il y avait ce retour sur les terres de nos pères. Lorsque vous aviez vendu des terres, au bout d'un certain temps, elles vous revenaient. Mais évidemment, il fallait prouver par votre généalogie qu'elles vous revenaient de droit. Je continue la lecture. Verset 60, les descendants de Delaja, de Tobija et de Nekoda, 652. Parmi les descendants des prêtres, les descendants de Abaja, d'Akots et de Barzilai, qui avaient épousé une fille de Barzilai, le Galadite, et avaient porté son nom. Écoutez bien ce qu'il nous est dit maintenant. Donc, ceux dont il vient de faire la liste, ceux dont il vient de nommer, ils avaient cherché leurs actes généalogiques, mais ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Le gouverneur de Juda leur interdit de manger des offrandes très saintes, et ce jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Thummim. Et donc, c'est juste un exemple parmi d'autres qui nous montre que la question généalogique n'est pas anodine. On pourrait la trouver banale, n'est-ce pas? Et dans nos lectures de la Bible, souvent quand on a un plan de lecture, ce sont les parties qu'on a tendance à vouloir sauter. Quand on n'est pas simplement en train de les accélérer, on veut souvent passer à la partie vraiment intéressante à nos yeux. Une autre raison qui justifie le fait que Matthieu cherche à confirmer l'identité, la lignée de Jésus-Christ, c'est que à cette époque où Jésus est venu, un peu avant lui, il y avait de prétendus Christ. Hein, souvent, on se souvient que Jésus a annoncé qu'après lui, de faux Christ viendraient et se prétendraient être Jésus, en tout cas le Messie de Dieu. Mais nous oublions que avant Jésus, il y a eu aussi de faux Christ. Et nous pouvons prendre ici dans les Actes, chapitre 5, versets 36 à 39. Actes 5. Nous sommes après la Pentecôte. Le Seigneur Jésus est remonté dans les cieux. Il a envoyé la promesse, le Saint-Esprit qui vient remplir les disciples et les rendre capables d'être des témoins. Et les apôtres, après avoir prêché dans ce chapitre 5, se trouvent arrêtés par les responsables juifs, qui n'ont pas vraiment goûté, qui n'ont pas apprécié que les apôtres rappellent qu'ils sont ceux qui ont crucifié Jésus. Et alors que ces responsables juifs sont réunis pour discuter du sort des apôtres, qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? Eh bien, nous pouvons lire la réaction de Gamaliel, un des responsables juifs de cette époque. Voilà ce qu'il dit. Prenons même à partir du verset 35. « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen. C'est un autre Judas que le disciple du Seigneur. À l'époque du recensement. Et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Et donc ici, au travers de l'apôtre Matthieu, le Seigneur Jésus nous fournit les preuves, les documents, on pourrait dire, le document officiel pour attester de sa lignée. Dernier point sur cette première partie de la confirmation. Je précise que cette généalogie, c'est la généalogie du côté du père adoptif de notre Seigneur Jésus, du côté de Joseph. Dans Luc, nous trouvons une autre généalogie, mais cette fois-ci qui est du côté de Marie, sa mère biologique. On le voit parce que dans la liste, à un moment donné, il y a des noms complètement différents, simplement parce que dans Matthieu, la branche, c'est celle de Salomon, l'un des fils de David, alors que dans Luc, c'est plutôt la branche d'un frère de Salomon, qui s'appelle Nathan. Okay ? Vous pouvez le voir dans Luc 3, au verset 31. Quelques applications pour nous. Nous voyons déjà que Dieu prend au sérieux la question de l'identité, la question de la filiation, ou on pourrait dire encore la question du droit, de la permission de séjourner ou d'hériter ou de pratiquer telle ou telle fonction. Autrement dit, Dieu prend au sérieux la question de la légitimité. Du coup, nous devons prendre en considération le fait que, de la même manière que les prêtres devaient prouver qu'ils étaient rattachés à la lignée d'Aaron afin d'entrer dans le temple, nous devons aussi prouver que nous sommes vraiment de la famille du Christ pour entrer dans le temple céleste, dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, à moins de naître de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. De la même manière que Christ aussi nous présente ici les preuves qu'il est le choix de Dieu, l'élu de Dieu, pour sauver le monde, de même nous devons et nous devrons fournir les preuves de notre élection, en démontrant que nous faisons vraiment partie de la famille du Christ. Et je le dis parce que, de la même manière que ce Teudas dont nous avons lu parler tout à l'heure dans les Actes, qui se prétendait être le Christ, il n'est pas impossible que nous puissions être dans une fausse idée que nous sommes de la famille du Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul exhortera les Corinthiens, « Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. » Mon exhortation ce matin, que nous ne nous présentions jamais devant Dieu, le jour J, le jour du jugement, en n'ayant pas vérifié notre généalogie, entre guillemets, notre lignée spirituelle. Une confirmation, deuxième point, un héritage, deuxième partie. Un autre but des généalogies, en plus de confirmer l'identité, c'est aussi de rattacher une personne à un héritage de famille, à une histoire. Et cela permet parfois de comprendre un peu mieux la vie de cette personne. Et je fais trois constats par rapport à la généalogie que nous avons dans Matthieu. Premièrement, quand on lit cette généalogie, et Lucas nous l'a lu, nous connaissons plusieurs de ces personnages hein, dont l'Ancien Testament nous parle. Premier constat, ce sont des hommes et des femmes profondément ordinaires. Ce sont des hommes et des femmes profondément normaux, ordinaires, humains. Et là, vous dites peut-être, et alors ? Eh bien, ce n'est pas rien dans notre compréhension de qui est Jésus-Christ. Il est entré véritablement dans notre humanité. On est très loin ici des généalogies qui pouvaient exister parfois à l'époque de l'Empire romain, ces généalogies un peu mythologiques qui nous disaient que tel personnage descend de tel demi-dieu et qu'il y a eu éventuellement un croisement avec telle créature extraordinaire. Non, non, vous lisez la généalogie du Seigneur Jésus et vous avez des pécheurs et des pécheresses comme vous et moi, de génération en génération, jusqu'à la venue du Christ. Deuxième constat. Nous voyons dans cette liste quelques noms illustres, quelques noms célèbres qui ont été des modèles, certes imparfaits, mais de vrais modèles de foi et de piété. Nous pourrions citer Abraham. Quel exemple de foi ! Abraham va quitter son pays et sa famille parce qu'il croit en la promesse de Dieu qu'il recevra en héritage un pays meilleur. Abraham se tient prêt à sacrifier son fils qui était censé être le descendant par lequel Dieu lui donnerait une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel parce que Abraham, nous dit l'Épître aux Hébreux, avait foi que Dieu pouvait le ressusciter. Quel exemple ! Nous avons dans cette liste une Rahab, ancienne prostituée, exemple de foi. Elle entend parler au loin de ce peuple d'Israël libéré d'Égypte par un Dieu puissant, plus puissant que les faux dieux d'Égypte. Et ce Dieu vivant, elle en entend parler, elle sait qu'il a livré son pays à elle non-juive entre les mains des Israélites. Et elle va exercer une foi exemplaire, au point que l'apôtre Jacques, au chapitre 3 de son épître, après avoir cité Abraham comme exemple, il cite Rahab en disant « Voilà l'exemple d'une foi vivante, d'une foi qui œuvre, d'une foi qui plaît à Dieu. » Et Christ arrive au bout de cette chaîne de modèles de foi et de piété comme la pièce parfaite, la pièce finale. Il est le modèle des modèles, l'exemple par excellence. Troisième et dernier constat. S'il est vrai que nous avons des noms illustres dans cette liste d'ancêtres de Jésus, nous avons aussi des noms qui sont tristement et tragiquement célèbres. Je ne vais en citer que deux, mais nous pouvons voir que figure dans cette liste le nom du roi Akaz, et le nom de l'un de ses descendants, le roi Manassé. Alors je retrouve simplement la page pour vous indiquer le verset. Akaz, verset 9, d'ailleurs les deux sont mentionnés, non, verset 9 pour Akaz et verset 10 pour Manassé, des rois qui ont été tristement célèbres pour avoir commis des crimes atroces, avoir sacrifié leurs fils aux idoles et commis un nombre assez étonnant d'atrocités. On lit leurs récits dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois et le livre des Chroniques. Et c'est là un héritage lourd à porter de la part du Christ. C'est un héritage rempli de contre-exemples et finalement de tentations, n'est-ce pas ? de tentation, parce qu'il pourrait y avoir la tentation de se dire « mais ça a été fait avant, et puis à quoi bon ?» Mais comme nous le savons, et comme nous le verrons dans la suite de l'Évangile, Jésus ne s'écroule pas sous ce fardeau, sous ce lourd héritage familial, mais au contraire, il réussit là où ceux avant lui ont échoué. Avant de passer au dernier point, admirons Jésus. Admirons Jésus qui prend ce qui est bon dans son héritage et en fait quelque chose de parfait. Admirons ce Jésus qui ne se laisse pas non plus corrompre par ce qui est mauvais dans son héritage. En transition pour le dernier point, quelques remarques sur les généalogies de manière générale. Certaines généalogies sont ce qu'on appelle des généalogies ascendantes, c'est-à-dire que l'on part de la personne de laquelle on veut faire la généalogie et on remonte jusqu'à l'ancêtre le plus lointain. Par exemple, ça donnerait Judas, fils de Jacob. Là, je vais voir si vous suivez, si vous vous souvenez. Fils d'Isaac, fils d'Abraham. Okay. Et donc ça, c'est une généalogie ascendante. Et dans la Bible, il y en a quelques-unes. Et en général, les généalogies ascendantes ne contiennent aucun détail particulier, aucune remarque en plus sur les personnes de la liste. C'est une liste simple de noms. Mais ici, dans Matthieu, vous l'avez entendu dans la lecture, nous avons une généalogie descendante. Nous partons de l'ancêtre le plus loin et nous arrivons à celui dont nous faisons la généalogie. Et ce type de généalogie contient des informations, des détails précieux, des perles. Nous ne les verrons pas ce matin, mais c'est simplement ici une indication pour vous, lorsque vous lirez d'autres généalogies, de prêter attention aux détails qui sont donnés parfois sur l'un ou l'autre de la liste. Nous aurons tort de négliger l'étude des généalogies. C'est une chose de ne pas savoir quoi en faire. Ok ? On est devant la généalogie, on a une liste de noms et on se dit « Mais Seigneur, comment est-ce que je peux trouver quelque chose d'édifiant pour ma foi avec cette liste de noms ?» Et c'est légitime comme question et comme difficulté. Mais c'est une autre chose de négliger ou mépriser, de déconsidérer les généalogies bibliques. Elles ne sont pas moins inspirées que Jean 3,16. Je le redis, les généalogies ne sont pas moins inspirées que Jean 3,16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Une partie seulement de l'Écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que j'ai bien cité ? Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, dans le grec, soufflé de Dieu. Toute l'Écriture, dans toutes ses parties, vient de Dieu lui-même. Et Paul continue dans cette épître en nous disant que toute l'Écriture inspirée est utile, utile pour notre foi et notre piété. Prenez avec moi dans le psaume 12, le verset 7. Psaume 12, verset 7. C'est une transition un peu plus longue que ce qu'on fait d'ordinaire dans une prédication, mais je crois que c'est nécessaire, ça nous sera utile pour le prochain point, et plus généralement, ça nous sera utile, et j'espère que ça vous sera utile lorsque vous lirez des généalogies. Psaume 12, verset 7, le psalmiste dit ceci au sujet de la parole de Dieu. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pur, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Autrement dit, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui puisse être considéré comme superflu, comme une impureté. Et le chiffre 7 ici est symbolique de ce qui est complet, ce qui est achevé, 7 fois épuré. C'est comme si Dieu avait sept fois vérifié sa parole. Il ne l'a pas fait, évidemment, parce que Dieu parle sans erreur dès le départ, mais c'est un peu cette image ici, cette idée. Vérifier, éprouver sept fois, y compris les généalogies. Vous m'avez donc compris, et je termine cette transition en disant que Dieu ne parle pas pour rien, il ne prononce aucune parole superflue. À nous d'apprendre à écouter. L'Esprit-Saint n'a rien inspiré aux prophètes et aux apôtres sans qu'il y ait pour nous une utilité directe pour notre foi et notre piété. Abordons donc les généalogies avec la conviction, là aussi, que Dieu nous parle. Ça nous amène à notre troisième et dernier point pour ce matin. Nous avons vu que cette généalogie dans l'évangile de Matthieu est une confirmation de l'identité de Jésus-Christ, une confirmation qu'il est le descendant d'Abraham et de David. Nous avons vu que cette généalogie est un héritage. Voyons l'histoire de la famille du Christ jusqu'à sa venue. Et nous finissons ici avec le dernier point, une perspective divine de la généalogie du Christ. Et c'est une question qu'on pourrait se poser peut-être en l'abordant, c'est « Mais est-ce que Matthieu vraiment veut nous dire plus que ce que tu nous as déjà dit, cher frère ?» Tu nous as dit que c'est pour prouver l'identité, oui, ça nous paraît logique, c'est pour prouver, ou plutôt pour dévoiler un peu plus de son histoire avec sa famille. Est-ce que vraiment il peut se trouver dans cette généalogie davantage ? Alors je réponds que le verset 17 de notre passage donne une réponse affirmative. Le verset 17 que je vais relire, donc on est dans Matthieu 1 toujours, verset 17. Matthieu conclut cette liste en disant « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. » 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Il y a dans ce verset 17 un de ces petits mots précieux lorsque vous lisez la Bible, une conjonction de coordination. Alors ça remonte peut-être à loin, hein, mais où est donc Ornicar ? Je me souviens qu'un de mes camarades de collège nous avait donné un secret pour mémoriser ces conjonctions de coordination. C'est « Mais où est donc Ornicar ? Il est dans le placard. » Alors, ça marche plus ou moins. Moi, ça a fonctionné. Mais ici, nous avons une des conjonctions, donc. Donc, ici, ça implique très clairement qu'il y a un lien avec ce qui précède. Matthieu nous dit « Donc, compte tenu de cette généalogie, il y a trois grandes époques, vous l'avez lu avec moi, 14 générations, 14 générations, 14 générations. Trois grandes époques de l'histoire de la lignée de Jésus-Christ dans lesquelles Dieu a agi pour conduire les événements jusqu'à la venue de Jésus. Trois grandes époques qui ont servi de préparation à la venue du Christ. Et pour être plus précis sur l'intention de Matthieu, je crois que Matthieu veut nous dire ici, c'est le bon timing. Jésus n'est pas en retard. Il est venu exactement quand il devait venir. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela ? Deux choses. Souvenez-vous le contexte, on attend à l'époque de Matthieu, ou en tout cas à l'époque de la venue du Christ, depuis près de 20 siècles l'accomplissement. Près de 2000 ans que Dieu a promis à Abraham la venue d'un descendant. Dieu a aussi parlé à David, mais c'était il y a près de 9 siècles. Et entre-temps, le peuple d'Israël a été emmené en déportation, proche de l'extinction complète. Le royaume de David est effondré, plus de perspective de voir la promesse de Dieu arriver. Et Matthieu nous dit ici, c'est le bon timing. Regardez avec moi. Il utilise trois fois le nombre 14. 14, c'est 2 fois 7. Il y a 7, 7, plus 7, 7, plus 7, 7. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans le psaume 12. Le chiffre 7, dans la Bible, régulièrement, a cette connotation, ce symbolisme de ce qui est achevé, de ce qui est complet, entier. Et je voudrais vous donner trois exemples rapides pour que vous soyez certains que ce n'est pas moi qui vous invente quelque chose avec les chiffres de la Bible. Pensez à la création. Dieu travaille pendant 6 jours. Et quel est le jour où Dieu achève son travail ? Il y a une question piège. Et justement, on serait tenté de le dire, et on le dit souvent, mais ce n'est pas le sixième jour. Le septième jour, même si Dieu n'a rien créé de nouveau, c'est le septième jour qu'il achève son œuvre. Le septième jour vient comme couronner, conclure ce travail de Dieu. D'où le symbolisme de sept qui représente ce qui est complet, entier. Un autre exemple. L'apôtre Pierre discute avec notre Seigneur Jésus et lui demande... Jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner mon frère lorsqu'il pêche contre moi ? Et Pierre se dit qu'en proposant 7 fois, il a proposé ce qui est complet. Je veux dire, c'est un pardon, on est allé au bout. Jusqu'à 7 fois, Seigneur ? Et le Seigneur de lui dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ou 7 fois 70 fois. Enfin, un autre exemple, et dernier exemple ici, ce matin, il y en aurait d'autres. Pensez à Naaman, le Syrien. Nous sommes dans le deuxième livre des rois. Naaman est un gouverneur, un chef de l'armée du roi de Syrie. Et il est lépreux. Dans sa maison se trouve une esclave juive, une jeune fille, qui dit à sa maîtresse, à l'épouse de Naaman, « Oh, si seulement mon maître voulait bien aller en Israël !» Il s'y trouve un prophète qui pourrait le guérir. Naaman donc demande la permission à son roi de se rendre en Israël. Il s'y rend auprès du prophète, est-ce que vous vous souvenez ? Élisée ? Élie ? C'est Élie, il me semble ? Du coup, j'ai un doute moi-même.
C'est Élie.
C'est Élie, il me semble, oui, c'est ça, c'est Élie. Deux rois, chapitre 4, 5, 6, on est encore dans le cycle d'Élie, mais à vérifier. Et donc, Naaman se rend auprès de ce prophète de Dieu qui lui dit ceci, « Va et lave-toi dans le fleuve, combien de fois ? 7 fois. » Autrement dit, « Va et reçois un lavage complet. » Une guérison entière. Et donc, je pense que nous avons suffisamment d'éléments ici pour confirmer le fait que Matthieu veut nous dire que le Christ arrive à la suite d'une série d'époques complètes, conclues au bon moment, le bon timing de Dieu. Je fais juste une parenthèse, je demande confirmation du coup. Élisée. Ok, autant pour moi. J'aurais dû vérifier. J'ai fait de mémoire. Et la mémoire est faillible. Merci. Donc, quelque part, cette généalogie nous fait sortir de notre perspective humaine, où nous pouvons souvent trouver le temps long. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus n'est pas venu plus tôt ? Et Matthieu nous dit, levez-vous un peu, prenez de la hauteur. La perspective de Dieu. Et voyez, trois grandes périodes, qui ont préparé la venue du Messie. J'aimerais vous lire trois passages en guise de confirmation, et nous allons arriver à des applications pour finir ce matin. Confirmation que Matthieu est bien en train de dire ce que je dis, que Jésus est arrivé au bon moment. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Nous sommes au début du ministère de notre Seigneur. Et voilà ce qu'il dit, voilà son message, dès après son baptême. Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On pourrait traduire l'évangile du royaume de Dieu. Et disait, le moment est arrivé. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le moment est arrivé. Ce qui implique que si Jésus était venu 5 siècles plus tôt, le moment n'était pas encore arrivé. Nous allons voir avec la citation suivante pourquoi est-ce qu'il fallait cette longue période d'attente. Galates chapitre 3, verset 19, puis versets 23 et 24. Galates chapitre 3, à partir du verset 19. Pourquoi donc la loi ? La loi, c'est la loi de Moïse. Et autrement dit, Paul est en train de demander, mais pourquoi la loi qui arrive après cette promesse faite à Abraham ? À quoi est-ce qu'elle sert ? Pourquoi cette longue période durant laquelle nous ne voyons pas la descendance arriver ? Donc, Paul explique, elle a été ajoutée ensuite des promesses, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Je saute pour arriver au verset 23. Avant que la foi vienne, c'est-à-dire avant que l'évangile ne soit accompli par Jésus-Christ, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Paul est en train de dire, pour le dire plus clairement, toute cette longue période nous a permis de pouvoir comprendre et accueillir le Christ. C'était la pédagogie de Dieu pour nous préparer à comprendre qu'il était nécessaire que Jésus vienne. Si Jésus était venu plus tôt, la tentation probablement aurait été beaucoup plus grande de nous penser capables de nous approcher de Dieu sans le Christ. Cette longue période de la loi prépare et justifie la nécessité de Jésus. Dernier passage, Éphésiens 1, versets 9 et 10, que nous avons lu il y a quelques semaines lors du culte. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Il nous a fait connaître, c'est-à-dire Dieu, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Quel est ce projet bienveillant ? Qu'est-ce que Dieu nous a révélé ? Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, le bon timing, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. C'était le projet de Dieu depuis toujours, de tout placer sous l'autorité du Christ, mais il fallait que le bon moment vienne. C'était son projet bienveillant. Permettez-moi de conclure avec des applications pour nous. Chaque période, nous dit Matthieu, de l'histoire a servi à préparer la venue du Christ, à préparer le règne du Messie. Et il n'en est pas autrement aujourd'hui. Vous avez vu, 14 générations, et Christ vient conclure cette triple époque. Il est le dernier maillon de cette troisième génération depuis Abraham. Mais Christ commence une nouvelle époque. Et la question ou les questions nous sont posées. Sommes-nous conscients que ce que nous vivons aujourd'hui concerne aussi l'établissement du règne de Jésus-Christ? Sommes-nous conscients que les temps, les âges, les années, les siècles sont une préparation pour l'instauration de ce royaume? Et je pose la question de manière peut-être plus personnelle maintenant, m'adressant à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Êtes-vous conscient que votre profession, votre famille, votre temps, votre argent, vos pensées, et en bref, que vos vies sont toutes en lien, que vous soyez conscient ou non de cela, avec le règne de celui qui doit dominer sur toutes les nations. Le règne de celui que Dieu a choisi, Jésus-Christ. Comment est-ce que nous nous préparons à ce règne? Deuxième application, deuxième leçon, qui est en lien avec cette première. Aucun événement, je l'ai dit, de l'histoire n'est hasardeux. Il n'y a pas de circonstances hasardeuses, de fruits du hasard. Pour nous, ça peut sembler effectivement souvent difficile à décrypter. Mais Dieu conduit l'histoire selon son projet bienveillant dont Paul nous a parlé dans l'Épître aux Éphésiens. La guerre en Ukraine, je l'avais déjà mentionné la semaine dernière, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a un lien direct, j'ai pas dit indirect, a un lien direct, ça ne veut pas dire que c'est le seul lien, mais avec le royaume de Jésus-Christ. Des populations sont déplacées, et certaines de ces populations déplacées arrivent dans des régions où, pour la première fois, elles vont pouvoir entendre parler du Messie de Dieu. Croyez-vous que Dieu ne soit pas derrière, en train de gouverner, dans sa toute-puissance et sa sagesse, l'avenir de chaque vie humaine? Quel rapport avec nous? Eh bien, quand des circonstances déstabilisantes, parfois affligeantes, révoltantes peut-être, nous arrivent, apprenons à nous poser la bonne question. Il y a une mauvaise question. La mauvaise question, c'est « Pourquoi, Seigneur ?» Ça, c'est trop large, c'est trop général. Et c'est frustrant parce que, bien souvent, ça ne nous sert à rien de poser cette question. Mais il y a une question meilleure que celle-là. Seigneur, cette situation difficile, révoltante, affligeante, cette épreuve, quel lien a-t-elle avec le règne de Jésus-Christ? Comment ce que je vis maintenant peut participer à cette prière, que ton règne vienne? Et je crois que cette manière de prier et de demander à Dieu pourquoi nous aidera à lever les yeux au ciel et à beaucoup mieux supporter les difficultés et les épreuves, nous souvenant que Dieu conduit l'histoire de nos vies. Troisième et avant-dernière remarque, application, leçon pour nous. De même que Dieu a préservé la lignée des ancêtres de Christ, on ne l'a pas vu en détail, mais 1000 fois la lignée de Christ aurait pu disparaître. Je prends l'exemple de Judas et de ses frères. La famine vient frapper le pays et ils auraient pu simplement mourir. Mais Dieu est intervenu, il a envoyé Joseph en Égypte. Est-ce que j'ai dit que Dieu a envoyé Joseph en Égypte? Et je maintiens. Joseph lui-même le confirme. Pourtant, ce sont ses frères qui l'ont vendu, n'est-ce pas? Mais Joseph dit, « Dieu m'a envoyé en Égypte afin de vous conserver la vie. » Et vous voyez que Dieu était à l'œuvre pour sauver la vie de l'un des ancêtres du Messie. Et de la même manière que Dieu a préservé cette lignée, frères et sœurs, il peut préserver et il va préserver la lignée spirituelle du Christ. Jésus a une lignée spirituelle et vous en êtes si vous avez foi dans son évangile, si vous êtes né de nouveau dans sa famille. Il y a là un parfait encouragement, je crois. Des circonstances peuvent arriver qui sont terribles, plus terribles même qu'une famine, mais votre vie est cachée en Dieu avec Christ si vous êtes chrétien. Et je finis avec cette dernière leçon. De même que chacune des trois périodes, vous vous souvenez, 14 générations, de même que ces périodes ont pris fin à des moments inattendus, hein, pour ceux qui les vivaient, hein, personne ne s'attendait à ce que ce soit le règne de David qui soit instauré au moment où il a été instauré. Personne ne s'attendait vraiment à ce que Nebuchadnezzar vienne et balaye Juda, Jérusalem et le temple et emmène en captivité le peuple. Personne ne s'attendait que dans une petite ville de Judée à Bethléem naisse celui qui tient le monde dans ses mains. Inattendu pour ceux qui ont vécu ces circonstances, mais pas pour Dieu. Et ce que j'aimerais nous dire pour finir, c'est que de la même manière, cette nouvelle et dernière période que Christ a commencée en venant aura une fin inattendue pour nous, mais pas pour Dieu. Pour certains, cette fin inattendue ressemblera à cette fin inattendue qui a donné suite à la déportation, okay, qui a amené sur la déportation. Ils ont été surpris, emmenés en exil, loin de la terre promise. Et de la même manière, quand Dieu jugera qu'il est le temps venu, nous serons, pour certains d'entre nous, j'espère qu'ici personne ne s'en privera, mais plusieurs dans ce monde seront jetés hors du royaume de Dieu, en exil, pour des tourments éternels. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de retour d'exil. Mais pour d'autres, pour tous ceux qui ont cru que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est ressuscité d'entre les morts, cette fin ressemblera plutôt au couronnement de David, à cette célébration, à cette liesse, à cette ville, en fait, cette nouvelle Jérusalem qui couronne le roi qui est selon le cœur de Dieu, ce roi glorieux qui a tant aimé ses ennemis qu'il est venu comme un serviteur, lui que nous aurions dû servir. Il vous a servi par ses souffrances et ses douleurs. Il vous a servi en acceptant d'être craché au visage, lui que l'on aurait dû embrasser sur ses pieds. Il a accepté d'être frappé au visage, lui qui aurait dû nous frapper au visage à cause de nos offenses et de nos péchés. Et le voilà couronné d'une couronne d'épines en vous disant, venez, je me charge d'abord d'être le roi de vos souffrances et de votre salut, afin de vous inviter à me recevoir comme le roi suprême de vos vies. Il meurt afin que nous vivions. Voilà le roi que vous servez, Et je finis en disant, gloire à Dieu, à lui la puissance, le règne, l'honneur, la sagesse, pour les siècles des siècles. Et je prie que Dieu rende vivant et réel cette vérité dans nos cœurs. Vivante et réelle. Amen.